Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une grande figure intellectuelle française que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ensemble ce matin, un des grands intellectuels français qui ont compté au XXe siècle, un homme qui joua un rôle clé dans le débat intellectuel français de l'entre-deux-guerres et qui a inspiré des générations de catholiques. Cet homme, c'est Jacques Maritain, philosophe, écrivain, mystique, un homme qui pourrait bien aujourd'hui nous aider à lire les signes de notre temps, à comprendre ce qui se joue au cœur de la vie politique française ou dans notre Église. Frère Gilles Denrocq, bonjour.
Bonjour.
Pour cette émission donc sur Jacques Maritain, à la découverte ou à la redécouverte de Jacques Maritain, comme on le fait de temps en temps pour certaines grandes figures. Frère Gilles Denrocq, vous êtes dominicain du couvent des Dominicains de Toulouse et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, en lien avec l'Institut catholique de Toulouse. Cette émission, entre autres, a été provoquée donc par une journée qui a eu lieu donc le 8 décembre dernier, journée Maritain, qui fêtait les 80 ans de la publication d'Humanisme intégral, œuvre de majeur de Jacques Maritain. On y reviendra un peu plus loin dans cette émission. On va commencer par une bio, hein, comme on a l'habitude de le faire. Alors, il ne s'agit pas d'être rébarbatif, mais avec vous, c'est difficile. Jacques Maritain, donc, il naît en 1882, avant qu'il devienne le grand intellectuel que certains connaissent. Qu'est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, de son origine familiale, dans quel environnement il a grandi? J'insiste toujours sur cet aspect, parce que c'est vrai que ça dit souvent quelque chose quand même des personnes.
Alors, c'est un Parisien. Fils d'une bonne bourgeoisie parisienne, il a fait ses études entre autres au lycée Henri IV où moi j'ai terminé les miennes, donc il y a une espèce de connaturalité ou de compagnonnage depuis très longtemps donc. Mais ce qui est important, c'est qu'il naît dans un environnement républicain à cette époque, rigoureusement républicain. Sa mère et son père d'ailleurs ont agi dans la gauche française de l'époque, et lui-même est agnostique, dans un milieu agnostique, mais à coloration protestante, c'est-à-dire il n'est pas hostile ni au Christ ni à l'Église. Mais il est éloigné, il se tient éloigné de la foi chrétienne. Ça va être très important, mais dès les débuts, on voit que c'est un intellectuel, il aime la philosophie, il va l'enseigner de multiples manières toute sa vie, et il est surtout frappé par l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui va donc bouleverser et même être très clivante pour la France tout au long du début du XXe siècle. Et on peut dire déjà...
Il faut peut-être rappeler à très gros traits pour que ceux qui par hasard n'auraient pas entendu parler de l'affaire Dreyfus, c'est donc un officier qui était juif, qui a été injustement condamné par la République française.
Oui.
Et il y avait tout un débat en France pour ou
contre Dreyfus. Envoyé au bagne.
Voilà.
Et donc,
qui dit l'antisémitisme profond qu'il y avait dans la société française.
Et il faut le reconnaître, dans l'Église, la majorité était pro-condamnation de Dreyfus, sauf un courant minoritaire incarné par quelqu'un dont nous avons parlé ensemble, qui est Charles Péguy, qui va être l'un des plus grands défenseurs avec Zola, avec Jaurès. Et Maritain a rencontré et travaillé avec Péguy, et il aura une admiration, même dans une période dont on va parler, où il est devenu anti-moderne, mais il a eu toujours une admiration pour Jaurès. J'ai retrouvé des traces, donc ici à Toulouse c'est intéressant de mesurer que son premier engagement, disons... politique au sens large, du politique plus que de la politique, on reviendra sur cette distinction peut-être pour aujourd'hui, et il a toujours eu cette sensibilité un peu militante pour les grandes causes de l'humanité, hein, comme celle-ci.
Donc, son origine familiale, il est sensible à l'affaire Dreyfus. Donc au moment de l'affaire Dreyfus, il a quoi? Il est adolescent, c'est ça, hein?
Non, il est, oui, il finit ses études au lycée Henri IV.
Il finit ses études au lycée Henri IV. Donc c'est un élève brillant. Il fait des études brillantes et rapidement, enfin rapidement. J'ai, comment dire, en préparant l'émission, j'ai découvert qu'il n'avait pas du tout fait que de la philosophie. Oui. Il s'oriente en tout cas vers la philosophie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de
ses années d'études? Il s'orientait vers les sciences. Il a fait d'ailleurs une sorte de master de biologie en Allemagne. Mais entre-temps, donc, il rencontre Raïssa Ousmanov, qui va être sa femme, qui, elle, vient d'une des causes aussi pour laquelle il combat, qui est l'émigration russe et en même temps l'émigration juive russe. Et donc il va épouser Raïssa en 1904, et ils vont tous les deux se convertir ou être converti et demander le baptême en 1906. Si mes souvenirs sont bons, je vois que vous avez une
oui, bio, c'est ça, 1906.
Et après la rencontre, alors c'est ça que je crois qui peut être tout à fait éclairant, avec la rencontre de Léon Blois. Et alors nous avons le récit de cette rencontre.
Donc pareil, grand écrivain catholique.
Oui, enfin en même temps, comment dire, c'est un visionnaire, c'est un prophète, c'est quelqu'un de joyeusement excessif et qui a écrit un livre absolument sublime et que je recommande à tous les auditeurs, qui est La femme pauvre. Et il va aussi, le même Léon Blois, tout en étant plutôt répertorié comme une sorte d'anarchiste de droite, enfin je ne sais pas, mais hors classe, c'est quelqu'un de hors classe. Et c'est ça qui est magnifique. Il va thématiser, écrire ce que Jésus dit à la Samaritaine, Saint Jean chapitre 4e, le salut vient des Juifs. Donc là on reconnaît cette espèce de veine qui va pousser les maritains à travailler, à creuser l'enseignement de saint Paul, à creuser ces racines juives de Jésus et de l'Église. Voilà. Et ça, c'est très important. Et dans le récit de la rencontre avec Léon Blois, qui se passe rue du Chevalier de la Barre, derrière la basilique de Montmartre, il monte à Montmartre en se disant, c'est soit la rencontre qui va bouleverser notre vie, soit c'est le suicide. Il pensait au suicide, à une espèce de nihilisme de la jeunesse d'avant-guerre de 14, une jeunesse, je crois, dont les aspirations humanistes n'étaient pas comblées par le contexte intellectuel et politique de l'époque. Voilà. Donc, on peut retrouver la séquence 1905, séparation de l'Église et de l'État. Bon, il n'en parle pas à cette époque. Mariage en 1904, séparation de l'Église et de l'État, et 1906, rencontre de Léon Blois, conversion radicale.
Alors, quand vous dites conversion, on en sait un peu plus de la manière dont ça s'est passé. Est-ce que c'est suite à cette conversation avec Léon Blois?
Ils ont demandé à être baptisés. Enfin, ça a été c'est un retournement, hein, conversion, métanoïa, c'est le retournement complet de la personne qui se retrouve. Enfin là, ils étaient deux.
C'est à la faveur d'une conversation avec Léon Blois. C'est pas...
Oui, après la rencontre de Léon Blois, ils ont tout de suite demandé le baptême qu'ils recevront donc en 1906.
Sur la suite, après, donc, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, c'est très, très difficile de faire une biographie aussi rapide.
Mais... c'est très, très intéressant, parce que c'est au même moment que Peggy revient à la foi catholique, et il va choisir Maritain comme une sorte de parrain, puisqu'il est déjà baptisé. Peggy a été baptisé tout jeune dans son enfance, mais il est marié et il a des enfants, et sa femme est agnostique, athée, socialiste, c'est donc de ses engagements précédents, disons. Et il ne sait pas comment revenir à l'Église. Et là, il y a un débat dont on a esquissé, il y a plusieurs émissions à propos de Peggy, qui doit vivre hors sacrement, puisque sa femme refuse, et lui refuse de forcer sa femme à se marier à l'église et à baptiser les enfants. Et auquel cas, on lui a dit à l'époque, par l'intermédiaire, Maritain, lui, il découvre tout. Donc, on va lui dire, lui faire dire qu'il ne peut pas avoir accès à la communion. Et Peggy va développer, au contraire, une prière ardente. Il refuse une église qui exclut, avec le paradoxe un peu de la vie de Jeanne d'Arc, qui va occuper toute cette première partie du XXe siècle. Elle va être canonisée en 1921, va donner lieu à toutes sortes de pièces de théâtre, d'opéra, d'œuvres musicales et littéraires extraordinaires, le thème de Jeanne d'Arc. Et donc là, lui, Peggy, voit dans Jeanne quelqu'un qui a été condamné, voué à la damnation, brûlé. Et par contre, effectivement, une trentaine d'années après, l'Église est revenue sur cette condamnation et va peu à peu proposer une démarche de béatification et de canonisation qui va aboutir justement en ce début de XXe siècle.
Et pourquoi vous nous faites une digression en parlant de Peggy à propos de Maritain ?
Non, mais parce que justement, on voit qu'à ce moment-là, le jeune Maritain, tout feu, tout flamme, c'est un enthousiasme de converti, un peu à la Claudel, conversion, voilà. Et la conversion de Peggy qui est plus intériorisé, qui va prendre un autre chemin pour créer le pèlerinage de Chartres, prier pour son enfant. Et finalement, sa femme et ses quatre enfants vont demander le baptême bien après la mort de Peggy en 1914. Donc c'est dans ce contexte qu'il y a deux découvertes, d'une certaine manière, de la foi. Et une découverte, je dirais, globale et totale de la part de Maritain, qui va être entraîné dans cette église dont une partie de l'intelligentsia est maurassienne, Action française.
Alors justement, j'allais y venir. L'autre élément clé dont il faut parler dans l'histoire de Maritain, c'est qu'un temps, il se rapproche de Maurras, donc, et de l'Action française. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer, peut-être, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce qu'est l'Action française et Maurras, à gros traits, et pourquoi est-ce qu'ils s'en rapprochent pour après, on verra plus tard, s'en détacher.
Justement, on l'a vu avec l'affaire Dreyfus, il y a une part de l'Église catholique en France et qui refuse toujours la Révolution française. Il faudra donc à la fin du 19e, un grand pape, un très grand pape, Léon XIII, qui va ouvrir le processus de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église en 1891 avec Rerum Novarum, pour accueillir la nouveauté et être de son époque sans être toujours dans le rejet au nom du passé, d'un passé qui pourrait être peut-être...
L'acceptation par l'Église de la République.
De la République, c'est ce qu'on a appelé le ralliement. Voilà. Et donc, il se trouve que Maurras, lui, a thématisé le royalisme, en disant que c'est le système monarchique est le meilleur système intellectuellement défendu par l'Action française, qui doit être le modèle politique de la nation française. Puisqu'elle est née du baptême de Clovis, si on peut dire, et puis de Charlemagne, des grands rois qui ont fait la France. Et effectivement, Louis XVI va être donc décapité et la Révolution française va proposer autre chose. Donc c'est une thématisation intellectuelle, mais Maurras, à cette époque, se dit agnostique. Il représente aussi ce courant qui va amener jusqu'en 1934 le courant condamnant Dreyfus, le courant antisémite qui est très fort à cette époque en France, qui va aller jusqu'en 1934, puisqu'on va s'approcher de 1936, la date d'humanisme intégral, avec les croix de feu qui vont monter à Paris contre la Chambre des députés et qui vont faire des émeutes très importantes de type révolutionnaire, anarchiste de droite, si je puis dire, voire maurrassien. Donc c'est tout ce courant-là qui s'est imposé, j'allais dire, avec le baptême et avec saint Thomas d'Aquin et le thomisme. Et tout ça va être une sorte de, passez-moi l'expression, de package qui tombe sur les maritains qui vont devoir tout découvrir. Mais peu à peu, donc, entre justement la conversion, le mariage... Et 1936, une trentaine d'années, où on voit que Maritain approfondit le thomisme beaucoup plus profondément que le thomisme qui va être remis dans les grands séminaires après l'invitation de Léon XIII. Et il va approfondir et va pouvoir reformuler pour son temps et non pas recopier indéfiniment des recettes qui viendraient du Moyen-Âge.
Alors on fait cette première pause musicale promise, et puis après on va parler plus avant d'humanisme intégral. Une émission Vivante Église ce matin, donc avec le frère Gilles Danroc, dominicain et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, donc au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Émission donc sur Jacques Maritain, à la découverte ou à la redécouverte de Jacques Maritain, comme on le fait de temps en temps avec des grandes figures de l'Église ou grandes figures intellectuelles ou artistes aussi parfois. Voilà, alors après cette introduction bien nécessaire, ces quelques éléments biographiques, en tout cas dans quel contexte les Maritains arrivent. Je vous proposais donc de parler d'humanisme intégral pour faire écho, donc je le rappelle, à cette journée qui a eu lieu le 8 décembre dernier à l'Institut catholique de Toulouse, journée anniversaire des 80 ans de la publication d'Humanisme intégral. Donc c'est une œuvre donc qui est publiée en 1936. Alors je vais vous introduire comme je peux. Ce que j'ai compris donc de l'importance fondamentale de cette œuvre, qui a eu des répercussions en fait énormes, c'est que à l'époque, donc il y avait la société française était traversée, pas que la société française, vers des aspirations à un ordre nouveau, l'espoir d'une société chrétienne fondée sur une primauté du spirituel, et puis il y avait deux grandes tentations ou deux grandes autres réalités, un certain matérialisme libéral et capitaliste, et puis le collectivisme et le matérialisme marxiste. Et puis au milieu de ça, donc, Maritain dessine une troisième voie, on peut dire, juste.
Oui, vous avez bien compris.
La parole est au frère Gilles Danroc.
Non, vous avez très bien compris. Le débat, j'ajouterais seulement que la guerre de 14-18 et, dans le fond, la non ou la mauvaise résolution d'une guerre, la Première Guerre mondiale, qui va amener la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme et la montée du communisme matérialiste en Union soviétique à partir de 1917, justement, et la figure de Staline. C'est vraiment l'obscurité qui s'abat sur l'Europe d'avant la 39. Donc on est dans cette période. Il faut rappeler que donc en 1934, je l'ai rappelé, l'attaque de la démocratie française autour de la Chambre des députés, il y aura le Front national. Le Front populaire en 1936. Donc on a un peu côté Front national, si vous voulez, 34, 36 Front populaire, mais en même temps nous avons la guerre d'Espagne qui est la préparation de la Deuxième Guerre mondiale, où vont s'engager justement d'un côté la Russie, enfin l'Union soviétique, et de l'autre l'Allemagne, qui vont fournir les armes de la guerre civile espagnole. Et ce contexte est justement très important pour comprendre l'humanisme intégral. Pourquoi ? Parce que, après la condamnation de l'action française, non seulement pour la France, mais pour plusieurs pays européens.
Donc il faut, oui, l'action française dont on a parlé dans l'émission précédente, conduite par Maurras.
Et qui a été condamnée par Rome. D'une certaine manière, une sorte d'idéologie monarchiste, systématique, qui serait portée par le spirituel, compris comme le spirituel carolingien, le spirituel Clovis, le spirituel de Louis XIV, enfin les rois de France, qui incarneraient d'une certaine manière un spirituel divin. Voilà. Et le meilleur système. De l'autre côté, on a effectivement une autre vision des choses, mais c'est en 1926 qu'est exprimée la condamnation de l'action française. Et immédiatement, Jacques Maritain va écrire « Quand Rome parle ». Rome a parlé. Donc il faut maintenant suivre la primauté du vrai spirituel exprimé par le pape par rapport au débat où la question de l'Église est mêlée à la question d'une sorte de chrétienté médiévale qu'on ferait revivre après la Révolution française. Et c'est en 1935, un an avant la parution de Humanisme intégral, que Jacques Maritain va être appelé aux fameuses journées de Santander en Espagne. Et l'été 1935, Jacques Maritain va aller en Espagne et en Pologne pour un séminaire thomiste. Et là, on comprend que c'est les deux places fortes historiquement, et peut-être jusqu'à nos jours il y a des conséquences, de chrétienté, l'une face à l'Orient par lequel vient à la fois le marxisme soviétique, et aussi l'islam qui est venu par l'Empire ottoman. Donc ça, c'est du coup, il y a une sorte de chrétienté de type polonais. Et puis par contre, il y a la chrétienté, si je puis dire, espagnole, qui elle a reconquis le pays face à l'islam et qui trouve son unité dans la Reconquista, comme on disait à l'époque, et qui est le modèle d'une église conquérante et qui, d'une certaine manière, enveloppe le domaine du politique. Or, à Santander, Jacques Maritain, comme nous l'avons vu à cette journée commémorative, a écrit 5 chapitres sur 6, pratiquement, de Humanisme intégral. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à l'invitation des Espagnols modérés qui ont refusé...
Voilà, quelle est sa thèse et qu'est-ce qui fait que ce livre a eu autant de retentissement ?
Il va dire, voilà, maintenant, l'idée de chrétienté telle que l'entendent la Pologne et l'Espagne, ou peut-être dans d'autres pays, où le spirituel forcerait le temporel à sa vision du monde, à la royauté du Christ, lui, Maritain, va poser une distinction. Il a écrit déjà « Distinguer pour unir les degrés du savoir », etc. Une distinction qui est d'ordre philosophique et spirituel. Il y a l'Église, soumise, bien sûr, à la volonté de Dieu, à la royauté du Christ mort et ressuscité pour sauver l'humanité, une Église organisée dans sa hiérarchie, et en peuple de Dieu allant vers le royaume, ça, c'est l'Église. Mais l'Église n'est pas la chrétienté. Il y a une coupure et il y a la société humaine qui elle-même peut être imprégnée par les laïcs, par les chrétiens, pour que la société humaine se tourne librement vers le Christ et résiste aux forces du mal. Et ceci est un principe posé dès la fin du XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin, que donc Jacques Maritain, Jacques et Raïssa ont reçu au moment de leur mariage, au moment de leur baptême, dans le paquet cadeau du baptême, et bien, il y avait ça. Dans les dragées, il y avait aussi donc saint Thomas d'Aquin qui s'est imposé comme proposant justement autre chose qu'un monde entièrement dominé par la royauté du Christ, chrétienté de type médiéval ou autre, ou bien un monde sans Dieu proposé par justement la sécularisation moderne et les deux nouveaux transferts de sacré qui sont Staline et Hitler, et qui sont justement en préparation de guerre. Et d'abord, Staline et Hitler se sont entendus. C'est pour ça que... voilà. Et donc il y a eu ce combat-là, et il a posé la grande distinction qui est que l'Église a le droit de développer la foi et la charité et l'espérance dans tous ses membres, mais la société humaine est autonome et c'est le lieu de la liberté. Inspiré par l'Esprit Saint pour ce qui est des chrétiens, et de toutes les valeurs de liberté qui peuvent exister dans l'homme, parce que l'homme est créé par Dieu. Donc on n'a pas l'humanisme contre Dieu, des années 20-30, mais on a un humanisme nouveau, un humanisme de la personne humaine. J'ai parlé de Mounier en 32, il prépare donc la revue Esprit.
Donc autre philosophe, personnaliste.
Voilà. Donc c'est l'humanisme intégral, c'est l'humanisme de la personne reliée en société et à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créée à l'image et à la ressemblance, mais cette image et ressemblance est proposée, l'Évangile, pour tout dire, est proposé à des libertés et ne peut pas s'imposer de l'extérieur par tout l'organisation du temporel, le gouvernement, la politique au sens des partis politiques, les prises de pouvoir et le pouvoir temporel proprement dit.
Alors après, on verra en fait les questions que ça pose en fait parfois aujourd'hui encore. Est-ce que vous pouvez nous dire l'écho que ça a eu à l'époque? Est-ce que je sais pas, c'était une voix prophétique que personne n'a entendue, ou est-ce que tout de suite ça a eu une fécondité énorme?
Ah non, ça a eu une fécondité énorme. D'abord, vous voyez le contexte. Le contexte, c'est la guerre d'Espagne. Et donc, une bonne part de l'Église, de la hiérarchie espagnole, a été violemment contre. C'était porté par un petit groupe, la réunion de Santander. C'était porté par un petit groupe d'intellectuels, le philosophe Ortega y Gasset, etc., qui sont d'ailleurs personnalistes, un petit peu depuis auparavant et depuis depuis cette rencontre. Il y a eu des échos, bien sûr, tout de suite en France, toujours dans ce débat 34, Action française, etc. Et tentation droitisme excessif. Et puis aussi refus de l'intelligentsia dite de gauche qui ne voyait pas cet humanisme nouveau étant habitué à l'humanisme anthropocentrique qui refusait justement de poser la question
centré sur l'homme en tout cas.
Centré sur l'homme et il y avait la séparation Église-État depuis 1905. Donc c'est dans ce contexte que se jouaient les matchs de l'époque hein, et des matchs terribles dans un contexte de pré-guerre mondiale. Et ensuite, comme Maritain a dû aller aux États-Unis et c'est aux États-Unis qu'il a vécu et à Montréal et au Canada, à Toronto, qu'il a vécu la période de la guerre, et c'est là qu'il est devenu un porte-parole de la résistance française, de l'extérieur. Et donc il a animé, par un livre très important à l'époque, pendant la guerre, qui s'appelle « À travers le désastre », où il reprend d'ailleurs les intuitions de Léon Blois sur la guerre de 14. Et là,
il va... dire que ça a été une figure intellectuelle de la résistance.
De la résistance. Et ensuite, il va continuer ce combat avec René Cassin, puisqu'ils vont...
Juste René Cassin ?
René Cassin, le père des droits de l'homme. Et vous savez qu'en 1949, dans l'après-guerre, dans tout ce mouvement qui voulait dire « plus jamais ça », et puis aussi après la Shoah, après les camps de concentration et la découverte du projet d'Hitler qui était absolument monstrueux, et après aussi les découvertes qui vont se poursuivre de tout ce que Staline a mis en place pour une sorte de terreur nouvelle, bon, le goulag et compagnie, bien là, ils ont affirmé autour de René Cassin et écrit avec une commission préparatoire dont Jacques Maritain faisait partie, les chartes, les deux chartes de 1949 des droits de l'homme, les droits de l'homme et aussi les droits sociaux, les droits collectifs de l'homme, les droits de la société pour la distribution juste du bien commun qu'est le monde, qu'est la vie.
Alors, en me plongeant un peu, en préparant cette émission dans différents textes, je suis tombé entre autres sur un article paru dans la revue Catholica. Alors, n'étant pas un grand intellectuel comme vous, j'espère ne pas dire de sottises, mais en tout cas, la revue Catholica, qui est une revue classée, on va dire, peut-être apparentée traditionnaliste, et encore, je pense qu'il y aurait peut-être des réserves à prendre. Toujours est-il que cette revue, qui a quand même une certaine autorité, il y a un de ses membres du comité de rédaction donc, qui écrit un article sur Jacques Maritain et qui émet des réserves. Alors du coup, je vais me faire le porte-parole de ces réserves, preuve qu'aujourd'hui encore, cet auteur peut poser question. Il dit entre autres donc que Jacques Maritain, en refusant la souveraineté du Christ sur le monde temporel, lâcherait d'une certaine manière le respect que toute société doit à la loi naturelle. Voilà, et je pense que enfin, tout le mouvement autour de la manif pour tous et la question du mariage pour tous ça peut trouver un écho dans ce mouvement qu'il y a eu. Et donc, sans offusque, et un peu plus loin, il dit la chose suivante, ce principe est l'antithèse de la souveraineté absolue née de la Révolution, ce principe de la souveraineté du Christ, voilà, qui devrait être respecté. Et Maritain, en fait,
pas tout à fait. La souveraineté populaire. La souveraineté politique et populaire de la Révolution française, à laquelle la souveraineté au Christ roi s'oppose.
Oui, tout à fait, oui, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être mal exprimé. Toujours est-il que je Maritain, en fait, en renonçant à cela, en tout cas c'est exprimé comme tel, aurait abandonné un principe fondamental, et du coup ça expliquerait peut-être cette société qui, dont certains chrétiens se désolent, qui finirait aussi par abandonner aujourd'hui la sagesse de la loi naturelle.
Oui, mais la loi naturelle, Dieu sait si... Saint Thomas l'a posé, défendu... Ah,
peut-être la loi naturelle, rappelez ce que c'est en deux mots.
Bah, c'est le fait que... pardon. la création, c'est l'œuvre de Dieu. Et la création de toute la nature, y compris la création de l'homme, au sommet de la création de la nature, il y a l'homme-femme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est un contexte de relation extrêmement étroite entre Dieu et ses enfants que nous sommes, l'humanité que nous sommes. Et la loi naturelle, c'est dire que est inscrite dans notre nature humaine justement ce projet de Dieu de créer une nature qui est bonne, une création qui est bonne et qui va vers l'amitié avec Dieu, ce que nous appelons le royaume de Dieu, la vie éternelle que nous confessons dans le credo. Mais pour vivre cette nature humaine et pour aller jusqu'au bout, il faut aussi combattre le mal, le péché, la mort, la violence, tout ce que l'humanité peut faire. Parce que la grande question de l'humanité, c'est qu'elle peut devenir inhumaine. Quand quelqu'un tue quelqu'un, quand ce qui se passe à Alep, ce qui se passe dans tous les conflits violents du monde, eh bien c'est l'expression justement que la liberté de l'homme ne s'est pas tournée vers l'amour, vers la vérité, vers le bien, vers la beauté, mais se détourne de Dieu pour accomplir le mal. Et c'est le problème de la liberté qui est central. Donc, alors, dans le droit naturel, l'homme, créé par Dieu, est libre.
Alors j'en reviens du coup à la contradiction qui est apportée donc par cet auteur, qui dit qu'en fait donc Jacques Maritain, d'une certaine manière, enfin, je le dis mal, mais en acceptant qu'il y ait une dissociation entre le royaume de Dieu ou la souveraineté du Christ et puis les choses temporelles, l'autonomie du monde temporel, comme vous le dites, aurait commis une erreur intellectuelle grave.
Nous ne sommes pas tous les deux des intellectuels qui se sépareraient dans les sphères.
Vous êtes un intellectuel, moi je suis juste un journaliste.
Non, je suis un chercheur de la vérité, comme vous. Et comme beaucoup d'auditeurs
alors,
qui nous écoutent, nous sommes tous des chercheurs de la vérité. Eh bien, mais il a la royauté du Christ, Maritain, et vous et moi, nous l'acceptons. Nous l'avons célébré fin novembre, la fête du Christ, roi de l'univers d'ailleurs. Donc c'est déjà un appel à la création. Mais ça, c'est le propre de l'Église. C'est dans l'Église que nous vivons une foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui nous a sauvés justement du péché, du mal, de la tentation, de la violence radicale et de la mort par la croix. Mais ça, c'est par la foi que je peux dire que Jésus est le sauveur du monde sur la croix. C'est par la foi que je dis qu'il est aujourd'hui ressuscité. C'est par la foi, c'est par le credo que je dis qu'il est monté au ciel. Il a sa royauté qui envoie l'Esprit Saint sur l'humanité, sur le monde. Et comme disent les pères de l'Église, je sais où est l'Esprit Saint, il est dans l'Église. Mais je ne sais pas où il est. Parce qu'il est Dieu, il est souverainement libre de travailler les cœurs de personnes que je ne connais pas ou dont je ne soupçonne pas, même que l'Esprit Saint est en train de travailler chez eux. Et c'est par la liberté que Dieu vient dans le monde. C'est par une adhésion libre, une adhésion de foi. Le baptême fait naître une source de liberté religieuse, si je puis dire, en tout bébé même baptisé. Donc c'est cette liberté qu'a reçue, d'une certaine manière, cette liberté, cette glorieuse liberté des enfants de Dieu que Maritain, Jacques et Raïssa, il faut que je bois un peu d'eau, puissent demander le baptême adulte et puis vivre une conversion radicale de leur vie. On ne peut pas, au nom de la royauté du Christ que nous vivons dans l'Église, on ne peut pas obliger, forcer, contraindre l'humanité à croire au Christ.
Voilà, et ben merci. L'émission n'est pas finie, mais on va faire une deuxième pause musicale, comme ça, ça vous laisse le temps de boire. Et puis après, peut-être plus rapidement, dans la dernière partie, on verra quelle est l'actualité de sa pensée, en tout cas l'écho que ça a trouvé au moment du Concile Vatican II. Et puis, de manière plus contemporaine, peut-être qu'est-ce que Maritain aurait à nous dire aujourd'hui dans l'Église de France et à l'occasion de cette année présidentielle.
Merci pour ce verre d'eau, puisque Jésus nous dit que même un verre d'eau que vous donnerez au plus petit, c'est à lui-même que vous le la donner. Donc Emmanuel, merci de donner un verre d'eau au Seigneur, roi de gloire.
Voilà, frère Gilles d'Enroc, dominicain à Toulouse. Si vous voulez le voir en vrai, bah, il suffit d'aller à la messe de temps en temps et vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église donc ce matin sur Jacques Maritain, donc à la découverte ou à la redécouverte de ce grand philosophe et donc particulièrement d'une œuvre Humanisme intégral, émission qui fait suite donc à la tenue le 8 décembre dernier d'une journée Maritain pour à l'occasion des 80 ans de la publication de ce livre majeur, comme nous l'a expliqué le frère Gilles d'Enroc, avec qui nous sommes ce matin, dominicain et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, dans cette dernière partie d'émission, avec vous, je voulais essayer de voir un peu quelle était l'actualité, même si on peut bien comprendre, fort de tout ce que vous nous avez partagé ou expliqué, l'actualité de Jacques Maritain et particulièrement de cette œuvre, mais vous vouliez insister plus particulièrement sur le rôle qu'il a joué pendant à l'occasion du Concile Vatican II.
Oui, nous savons que dès Humanisme intégral, celui qui va devenir Paul VI s'est rapproché de Maritain. Ils ont eu une amitié très féconde et constante à travers tous les...
Donc le pape Paul VI.
Le pape Paul VI. Et justement, c'est le choix du pape Paul VI pour transmettre le message du Concile au monde, et en particulier aux intellectuels, il a choisi de le remettre à Jacques Maritain, qui avait aussi beaucoup œuvré dans la préparation du Concile pour une prise de position de l'ordre de l'humanisme intégral. L'Église est l'Église et la société est une chrétienté laïque, si je puis dire, qui ne dépend pas directement du spirituel, mais qui est tout imprégné d'évangile par... Et le décret du Concile, qui a été le plus polémique, qui a créé une minorité active, qui va d'ailleurs se séparer de l'Église avec Mgr Lefebvre, donc ce qu'on peut vraiment appeler l'intégrisme qui se sépare de l'Église, c'est autour donc de Dignitatis Humanae, c'est-à-dire le décret sur la liberté religieuse. La liberté religieuse est une revendication qui a eu un écho international extrêmement important, puisque justement on réclamait la liberté religieuse dans des pays où elle était interdite. Donc, que ce soit Solidarność, et on sait tout le combat contre le marxisme triomphant, syndicat en Pologne, tout ce qui a fait l'URSS, eh bien, c'est Dignitatis Humanae qui a impulsé, si je puis dire, ce courant qui va remporter des victoires en Amérique latine, en Europe de l'Est, et qui va imprégner une nouvelle façon de voir le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, la revendication chrétienne, y compris dans un contexte de laïcité à la française, mais dans toutes sortes de situations dans le monde, c'est de demander plus de liberté. nous n'avons pas à vivre notre foi uniquement à l'intérieur de notre cœur. Nous avons la liberté d'organiser toutes les œuvres de charité dans le monde. Eh bien, c'est un acte politique au sens grand du terme, au sens un acte social et politique de faire rayonner et de transformer le monde par la charité, par la vérité de ce que Dieu dit à notre monde, dont nous sommes porteurs. Mais nous ne sommes pas porteurs par le biais de la structuration du pouvoir politique et économique, mais en imprégnant la société qui doit refuser ce que le pouvoir politique et le pouvoir économique, pour parler vite, ou de la finance, proposent de négatif pour le monde. Là, on s'oppose. Et en même temps, on propose, du côté de l'Église, par le biais de l'évangélisation, on propose la foi. Mais la foi qui rend Dieu, qui réjouit Dieu, c'est une foi libre. C'est pas une foi imposée. C'est une foi qui déploie les trésors de notre humanité, je reprends encore l'expression de saint Paul, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Voilà l'axe de notre combat, à la fois dans et par l'Église, et dans et par les moyens que les chrétiens peuvent se donner, avec d'autres, pour lutter contre toutes les forces du mal.
Alors pour finir, moi j'avais une dernière question sur le contexte de l'Église de France, et puis contexte politique français, parce que bon, parfois les deux se mêlent. En l'occurrence, je pense à un article lu récemment dans une revue chrétienne, interview de Patrick Buisson, donc cette figure intellectuelle française qui a inspiré en partie Nicolas Sarkozy. Voilà, un homme apparenté
pas aujourd'hui
ou classé d'extrême droite, en tout cas plus aujourd'hui, et qui invitait dans cet article en fait à en finir avec l'esprit des Lumières. Alors on entend ça parfois dans la société française ou parfois même dans l'Église, ce désir d'une comme un désir de restauration. Alors qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que Maritain a à dire là-dessus?
Ce qu'il peut inspirer, c'est toujours cette exigence, cette quête exigeante de plus de liberté, y compris par rapport à la société politique qui défend les valeurs de la République. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, dans un contexte mais qui n'existe plus, qui n'est même plus pensable comme tel, parce que c'est une expérience et ce n'est pas une construction idéologique et abstraite. Le Moyen-Âge a proposé une époque qui est tout le contraire de l'obscurantisme. C'est une époque qui a eu des créations, dont l'université par exemple, les cathédrales, les grands saints, Saint Louis, roi de France, ont proposé quelque chose d'une civilisation magnifique. Cette civilisation n'est plus. Alors, est-ce que on va, par le fait même, embrayer sur toutes les valeurs qui ont fait la fin de cette chrétienté médiévale, qui date dans le fond des grandes découvertes et de Christophe Colomb, c'est-à-dire la mondialisation du monde et non plus l'existence de l'Europe chrétienne. Mais c'est effectivement la Révolution française. Et Maritain a écrit, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans sa découverte de saint Thomas d'Aquin, il a écrit les trois réformateurs, dont Rousseau, qui est vraiment celui qui a incarné le rayonnement des Lumières, en tout cas en France, que ce soit le débat Voltaire-Rousseau, peu importe, il incarne cette idée que l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Et en ce sens, l'homme étant naturellement bon va se passer de Dieu. Il n'a pas besoin pour être bon de l'action du Saint-Esprit ou de la grâce. Il est naturellement bon. Ce qui est une vérité chrétienne. Mais nous disons que l'homme est créé par Dieu, mais que le péché originel va corrompre sa nature et qu'il faut maintenant lutter contre l'envahissement du mal, de la violence, de la souffrance et de la mort. Donc il y a quelque chose à faire. Il ne va pas se. C'est comme l'enfant sauvage de Truffaut, hein, un enfant qu'on aurait trouvé au fond d'un bois et qui aurait été comme Romulus et Rémus.
Et donc Patrick Buisson.
Alors moi je connais pas très bien cet homme et je ne. C'est pas ma recherche personnelle.
Votre réponse à cette interrogation.
S'il
qui
parle
traverser.
Des Lumières, je dis le débat de Rousseau est à reprendre. Le débat de Robespierre est à reprendre. Le débat de la terreur est à reprendre. Il a été repris par à la fois par le national-socialisme de Hitler, qui est une pente qui peut nous attirer dans une certaine droite, ou le socialisme de Staline. Là, je sais que Maritain a lutté contre cela. Il a lutté contre cela au nom de sa représentation du monde issu de Saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin postule que la nature, la création, est à la fois bonne et inscrit dans l'homme son image, l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, qui le pousse vers le bien, qui le fait rechercher son bien personnel et le bien commun de tous. Ça, ce sont des valeurs qui sont inscrites dans l'homme, mais qui peuvent être dévoyées par le choix libre de raisonner aux sirènes du mal, aux sirènes de la destruction de l'autre. Et il faut penser que le XXe siècle dont nous héritons est un des siècles les plus terribles de l'histoire, qui a connu aussi des figures magnifiques, dont Jacques Maritain par exemple, mais deux guerres mondiales, des millions et des millions de morts. Pourquoi ? Destruction, autodestruction, suicide de l'Europe. On ne peut pas restaurer quelque chose d'avant ce suicide de l'Europe. L'Europe s'est entre-déchirée et c'est à cause de ces guerres que le pouvoir économique et temporel est allé, à partir de 1917, qui va récupérer cela ? C'est l'Occident, c'est les USA, c'est l'Amérique qui entre en guerre pour délivrer la Triple Entente. Et puis, c'est à partir de l'Orient, donc l'Union soviétique, puis la Chine qui aujourd'hui récupère ce pouvoir que l'Europe a perdu par sa faute elle-même. Et dans cette destruction énorme, on n'a pas idée de tout ce qui a été détruit par ces deux guerres mondiales. Et au contraire, maintenant, grâce à l'esprit de Dieu, l'esprit de paix, c'est vers cette liberté-là que nous allons essayer de reconstruire un monde de l'humanisme intégral.
Voilà, donc il faut lire Humanisme intégral, donc de Jacques Maritain. Merci beaucoup au frère Gilles Danroc d'être venu ce matin se prêter à cet exercice. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.